Europe 1, c'est arrivé cette semaine. François Claus.
Mais avant de développer tous ces thèmes très riches, comment ne pas rendre hommage à une dame qui nous a quittés hier. Nous sommes le 12 novembre 2017, nous sommes sur le tapis rouge de Los Angeles, le temple du cinéma. C'est la première femme dans l'histoire du cinéma à recevoir un Oscar.
J'ai toujours essayé de mettre de la lumière sur des gens qui étaient dans la marge, ou pas de pouvoir, ou révoltés. Je n'ai pas fait de comédie sur les milieux riches et bourgeois. En France, c'est la même chose. J'ai plutôt parlé, je ne sais pas, des glaneurs, des délaissés, des squatteurs. Donc, j'ai continué dans la ligne de ce qui me semblait important. Je n'ai jamais fait de publicité, je n'ai jamais vendu de cosmétiques. Donc, ça inspire aussi certains jeunes à tenir le coup pour leur projet. Donc, je me sens à l'aise. C'est un honneur, mais j'en fais pas une patate, comme on dit.
Agnès Varda avait 88 ans lorsqu'elle prononce ces mots, j'en fais pas une patate, qui nous renvoie évidemment à son formidable film Glaneurs et les glaneuses. Et une Agnès Varda telle qu'en elle-même jusqu'au bout, qui nous a quittés hier à l'âge de 90 ans. Bonjour Jean-Michel Frodon.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des Cahiers du cinéma. Agnès Varda, c'est une figure unique dans son histoire depuis... Finalement, son premier film qu'elle va faire toute seule, elle a à ce moment-là 25 ans, elle met une caméra à l'épaule et elle voyage dans ce quartier des pêcheurs de Sète. C'est la nouvelle vague, finalement, avant la nouvelle vague.
Tout à fait. Ce film qui s'appelle La Pointe Courte, elle l'invente littéralement avec deux jeunes acteurs du TNP. Elle est la photographe du TNP à l'époque. Et avec ces deux jeunes acteurs qui s'appellent Philippe Noiret, qui aura un peu de succès par la suite, et Sylvia Monfort, elle invente quelque chose qui va être prometteur de tout son travail ensuite, puisque c'est à la fois une fiction, une histoire d'amour, une histoire de rupture d'un couple, et un documentaire sur la vie quotidienne des pêcheurs de ce quartier de Sète.
Et qui annonce finalement, d'une certaine manière, toute sa carrière. On va remonter avec vous, Jean-Michel Frodon, le fil de cette carrière, et évidemment, 1962, Cléo de 5 à 7.
Si grave.
J'ai vu le cancer. Elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerais.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime.
C'est elle. C'est vous, mademoiselle. Moi qui aime tant votre voix.
Toutes portes ouvertes.
La musique de Michel Legrand. Il y a cette énergie de la vie et en même temps un désespoir, une inquiétude à fleur de peau.
Il y a une inquiétude, hein. C'est l'histoire d'une jeune femme qui attend un diagnostic de probable cancer. Et en même temps, il y a cette vitalité extraordinaire qui est aussi portée par Corinne Marchand, l'actrice du film, la musique, mais également ce rapport à la ville, puisque le personnage circule dans les rues de Paris et qu'on retrouve à la fois cette dimension fictionnelle, c'est une création écrite par Agnès Varda, mais cette disponibilité aux petits événements qui se passaient dans la rue et quelque chose qui va être majeur dans tout son travail, qu'on pourrait appeler un dispositif. Il y a un principe général d'organisation du film, qui est qu'il est en temps réel. Le film dure le temps qui se passe pendant l'histoire qui est racontée.
Ce qui est un vrai, vrai défi et une vraie révolution.
Voilà, et ça fait partie de ce que Agnès Varda fera toute sa vie, c'est d'inventer des dispositifs, des organisations qui permettent de dire quelque chose en plus que l'histoire qui est racontée de manière classique. C'est ce qu'on retrouvera aussi autrement plus tard quand elle entrera aussi dans les musées et les galeries pour faire de l'art contemporain.
Et bien sûr, la figure d'Agnès Varda est liée aussi à un homme qu'elle a accompagné, à qui elle a rendu hommage, évidemment, Jacques Demy, c'est Jacques de Nantes.
Où se tombe-t-on régulièrement ?
Il était une fois un garçon qui habitait dans un garage à Nantes.
Passez les trois mousquetaires !
Sa mère aimait chanter.
La maman du petit homme lui dit un matin.
Son père aimait chanter.
Caroline, Caroline, mets tes petits souliers vernis.
Et lui aussi.
Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline.
on entend la voix de Jacques Demy. C'est un formidable hommage à Jacques Demy, à son compagnon. Finalement, elle n'est dans aucune case. On parlait de la nouvelle vague, on a parlé de presque des documentaires, mais elle est à la croisée de tous ces chemins pour créer sa propre griffe, finalement.
Oui, Agnès Varda a inventé ce qu'elle faisait en marchant, en avançant, en se trompant des fois. Elle n'a pas eu que des succès avec des réussites dans sa vie. C'est une carrière qui reconstruit, réinvente d'autres manières de faire des films, de convoquer la photo, de passer par la télévision, de passer par les galeries et les musées à certains moments pour poursuivre exactement la même, le même élan, la même dynamique qui était la sienne en créant des conditions à elle. Il y a une chose importante dont on ne parle pas, qui est la petite société qu'elle avait créée, qui s'appelle Ciné Tamaris, et les gens formidables qui ont travaillé à ses
côtés. Qui lui a permis de tenir dans sa propre économie du cinéma, d'être une forme de glaneuse de films pour pouvoir maintenir sa carrière et sa liberté.
Exactement, et elle a inventé les conditions de son indépendance, les conditions de sa liberté et de l'invention de nouveaux outils, aussi grâce à ses moyens économiques et d'amitié et l'énorme tissu de complicité qu'elle avait tissée à Paris et à travers le monde.
Nous sommes avec Jean-Michel Frodon, le directeur des Cahiers du cinéma, pour évoquer la figure d'Agnès Varda.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, c'est jusqu'à 10h avec vous, François Kloss.
Et nous évoquons la figure, la carrière d'Agnès Varda qui nous a quittés hier à l'âge de 90 ans. Et une petite surprise, nous avons un témoin. Bonjour Bertrand Tavernier, vous qui êtes une des mémoires du cinéma français. Bertrand Tavernier, si je vous dis Agnès Varda, qu'est-ce que vous dites là spontanément ?
D'abord, je vous citerai un certain nombre de films que j'ai adoré, à commencer par Cléo de 5 à 7, qui a été un des premiers films où j'ai travaillé comme attaché de presse lors de la sortie. C'est moi qui était chargé de le défendre auprès des journalistes, ce qui était très facile parce que j'adorais ce film, j'avais été très ému, très 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 touché.
Elle avait cette capacité à faire plusieurs histoires dans la même histoire. C'est ce que il y a une forme de, on le voit dans Jaco de Nantes ou dans, où elle peut dériver tout en restant sur son sujet.
Elle reste dans ses meilleurs films, elle reste complètement dans son sujet, comme dans Antoine Ilois ou dans Le Glaneur et les Glaneuses. Mais en même temps, elle s'autorise des échappées, des moments de liberté. Les meilleurs films d'Agnès Varda, se caractérisent par une liberté, une absence de dogmatisme dans le ton, et puis un regard à la fois empreint de compassion, mais aussi de drôlerie. Il y a beaucoup de moments très, très cocasses dans les films d'Agnès.
Elle avait un côté enfant, on voit la manière dont elle évoque son grand amour Jacques Demy dans Jaco de Nantes, tout en ayant une conscience sociale qu'elle arrive à faire passer parfois avec des mots et une attitude d'enfant presque.
Oui, en même temps, elle dit des choses très fortes dans Le Glaneur et les Glaneuses. Hein. Elle fait un portrait très, très acerbe des conditions de vie de certaines personnes. Et je pense que si les hommes politiques avaient compris le sens de ce film et l'avaient vu, l'avaient analysé et avaient su en tirer ce qu'ils devraient en tirer, il n'y aurait pas eu les Gilets jaunes. Parce qu'on parlait du désespoir de certaines personnes qui étaient contraintes pour se nourrir, d'aller voler des restes de pommes de terre. Il y avait une chose comme ça et je trouve que c'est, entre parenthèses, que c'est dommage que les hommes politiques ne voient pas assez nos films. Ils en apprendraient souvent sur le pays dans lequel ils vivent.
Et notamment la manière dont Agnès Varda le filmait. Ça renvoie à ce que vous dites sur Le Glaneur et la Glaneuse, évidemment, à Saint-Antoine Ilois aussi.
Oui. Avec Saint-Antoine Ilois contenait des moments extrêmement forts et incisifs et je trouve bouleversants.
Bouleversant, évidemment, on pense aussi à Sandrine Bonner qui a rendu hommage hier à Agnès Varda, tout comme l'artiste JR avec qui elle a fait son dernier film Village et qui a envoyé sur Twitter des photos de ce parcours qu'il a effectué avec Agnès Varda. Merci encore Bertrand Tavernier, au revoir.
Au revoir.
Jean-Michel Frodon, cette Agnès Varda, elle va rester dans nos mémoires parce qu'elle nous a accompagnés dans son propre parcours.
Bien sûr, elle traverse plus de 60 ans de l'histoire, pas seulement du cinéma, d'abord du cinéma, mais aussi des images et, comme Tavernier le rappelait à juste titre, des engagements, l'engagement féministe. Elle est d'abord une femme qui fait du cinéma, c'était pas courant au moment où elle a commencé, c'est même resté pas courant encore pendant les 20 ans qu'on suivit.
Aujourd'hui. Elle n'aimait pas qu'on dise femme cinéaste, elle disait je suis cinéaste, mais elle a incarné cette figure avec beaucoup de discrétion, d'humilité et néanmoins... Ces témoignages sont là pour montrer qu'elle était en pointe.
Oui, mais elle a aussi été une féministe engagée. Elle a signé le manifeste des 343 en faveur de la légalisation de l'avortement. Elle a réalisé un film qui s'appelle L'une chante, l'autre pas, qui est très clairement un engagement de ce côté-là. Elle a participé à un grand nombre d'interventions publiques dans ce sens-là. Elle a aussi accompagné un certain nombre d'actions sociales et politiques tout au cours de sa vie, quelquefois publiquement et souvent discrètement. Et cette dimension là, y compris l'attention aux gens qu'on ne voit pas à l'image, aux gens qui n'ont pas la parole d'habitude et qui sont ceux qu'elle va rencontrer. Tous ses derniers films sont des voyages et sont des voyages pour aller à la rencontre à la fois de gens célèbres qu'elle a aimés et connus et de gens tout à fait inconnus avec qui elle construisait cette relation tout à fait particulière, à la fois rieuse, exigeante et très très attentive, qui fait l'importance de son cinéma autant que son invention formelle ou visuel qui aura toujours été considérable.
Alors n'hésitez pas, toutes les télés ont bouleversé leur programme. Vous pouvez revoir Village, notamment sur Canal. Il y aura évidemment Le Sang Toinillois également rediffusé par les télés pour partager cette œuvre singulière. Merci Jean-Michel Frodon. Je parlais des Cahiers du cinéma, j'étais tellement lecteur des Cahiers du cinéma que je pensais que vous y étiez encore. Mais non, vous avez quitté les Cahiers du cinéma. Vous êtes aujourd'hui sur
Slate.fr.
Votre papier sur Agnès Varda, vous l'avez l'intitulé comment ?
Ce matin, La Grande Vie.
Et vous publiez également un livre sur le cinéaste. On est très loin, mais finalement assez proche de Varda, un cinéaste de l'intime, un cinéaste du temps, le japonais Ozu.
Oui, c'est un petit livre qui s'appelle 13 Ozu, aux éditions 202. Agnès aimait beaucoup Ozu, on en a parlé à plusieurs reprises, donc c'est pas si aberrant que ça de le mentionner après avoir parlé d'elle.
Merci Jean-Michel Frodon. Allez, une phrase pour finir. J'aime ouvrir le ventre des gens, on y voit des paysages. Dans le mien, si on l'ouvrait, on verrait des plages, disait Agnès Varda.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec François Kloss sur Europe 1.
Bonjour Alexandre Romanès.
Bonjour.
Nous écoutons la formidable bande-annonce du film de Tony Gatliff, Gadjo Dilo. Vous êtes ce matin dans notre studio pour prendre la parole, parce qu'il y a des choses à dire dans le contexte, dans cette rumeur qui s'est diffusée via Facebook, dans ces réactions de psychose qu'elle a générées aussi. Vous avez créé votre cirque avec votre famille depuis 1994 à Paris, un petit havre de culture rome dans Paris, qui était d'abord place de Clichy, qu'on peut voir aujourd'hui pour votre nouveau spectacle dans le 16e, enfin le 16e plutôt
on
côté
Périphérique,
du côté de la Porte Maillot, avec votre famille. Et vous êtes, Alexandre Romanès, j'imagine, révolté par cette situation et la résurgence de cette figure du tzigane voleur d'enfants.
Oui, c'est une vieille affaire où on nous accuse en fait de tellement de choses. Moi, j'ai vu les images et ce que j'ai vu surtout, c'était deux pauvretés qui s'affrontent, c'est-à-dire des gens qui lancent des pierres mais qui sont intellectuellement très pauvres et des gens qui reçoivent les pierres et les incendies et qui sont, eux, économiquement très pauvres. Donc, il y a un vieux proverbe français, quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Je voudrais préciser une toute petite chose. Vous avez dit les Roms, manouches, bohémiens, gitans, romanichel, Roms, toutes ces appellations sont fausses. Et tout ça, ce sont nos soi-disant spécialistes qui ont mis les journalistes et le monde politique dans l'erreur. Quand nous sommes entrés en Europe, on s'appelait les Tziganes. Et moi, je conteste d'autres appellations.
Et c'est cette culture tzigane que vous voulez partager, véhiculer dans Paris, dans votre cirque familial de la musique, de la danse, car c'est quelque chose j'allais dire, de culturel et de quasiment génétique.
Oui, alors, cette affaire de racisme auquel on assiste, nous la subissons, nous, maintenant, au Cirque Romanès. J'essaie depuis plusieurs mois d'établir une tournée à travers la France. Je n'y arrive pas. Même la ville de Bordeaux, qui nous accueillait presque tous les ans, ne veut plus nous accueillir. Alors que mon chapiteau fait 300 places, mesure 20 mètres, on n'a pas d'animaux, on a un public, on n'a pas même tout à fait le public du cirque, on a les gens qui vont écouter de la musique classique, qui vont au théâtre. Je n'arrive pas, je lance d'ailleurs un appel.
Et vous pensez que cette difficulté, elle est liée aussi à cette peur diffuse qui, oui, aujourd'hui, devient de moins en moins diffuse?
En ce qui nous concerne, nous, la grosse différence avec les autres cirques, qui eux vont en toutes les villes, il y a le mot de Zigane en grand. Et c'est le mot de Zigane qui nous bloque. Et d'ailleurs, si des maires de grandes villes nous entendent, s'ils pouvaient m'appeler pour me dire « venez dans ma ville », je viens. Mais là, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune ville devant nous.
Nous sommes avec Pascal Froissart. Bonjour, monsieur Froissart.
Bonjour.
Vous êtes l'un des sociologues les plus pertinents sur cette question de la rumeur. Alors, on a tous relu notre Edgar Morin 1969 sur cette fameuse rumeur d'Orléans. On a le sentiment, alors vous allez me dire si c'est juste ou pas, Pascal Froissart, qu'à l'heure, évidemment, des réseaux sociaux, de l'accélération du temps et de l'information, il y a une modification dans la diffusion de cette rumeur. Est-ce que c'est quelque chose de réel que vous observez, vous ?
Il y a une modification au sens où ça va plus vite et ça va plus loin. Il n'y a pas de véritable modification parce que ça a toujours existé et qu'on a toujours cherché des boucs émissaires partout où ils sont. Donc la technologie n'explique pas en tout cas le surgissement de ce genre de phénomène-là. C'est malheureusement quelque chose d'assez profondément inscrit dans la nature humaine.
Alors profondément inscrit, mais qui repose sur... D'abord, une détresse, un manque d'éducation, un manque d'information, le besoin d'avoir une figure sur laquelle exercer ou exorciser sa peur.
C'est compliqué, il ne faut pas faire de la psychologie de trop bas étage, c'est-à-dire il ne faut pas chercher toujours une cause et un effet très proche. Il est sûr qu'il y a des conditions, mais par exemple dans le cas qui nous intéresse, là, malheureusement on n'a pas besoin d'une rumeur pour qu'il y ait des expéditions punitives contre telle bande de tel quartier, village,
Mais ce qui est insidieux, Pascal Froissart, c'est que lorsqu'il y a ces événements, c'est aussi une psychose qui se diffuse de l'autre côté.
Alors, la psychose, elle existe parce que tout le monde s'intéresse tout d'un coup, au même moment, au sujet. Et là, effectivement, les technologies peuvent y jouer, mais les technologies médiatiques, en particulier le fait que tout le monde, en ce moment, parle de cette expédition punitive, qui n'est arrivée quand même que très rarement. Il y en a très peu qui se sont passés cette semaine. Mais le fait que tout le monde se concentre sur cet événement-là fait qu'on a l'impression que ça se passe dans toute la France et que toute la France est à feu et à sang et que toutes les communautés roms sont attaquées. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, les communautés roms, malheureusement, elles sont attaquées, même quand la rumeur ne circule pas. Elles sont victimes de très nombreux stéréotypes et de très nombreux exactions, même. On leur reproche physiquement d'exister parfois, et c'est un vrai problème. Donc là, la rumeur, elle a bon dos. Elle sert de prétexte dans bien des cas. Alors, ça ne veut pas dire que la technologie n'a pas son rôle à jouer et que les plateformes ne devraient pas être un tout petit peu plus vigilante sur ce qui circule dans leur tuyau, mais ça veut dire que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nature humaine, il faut faire très attention, il faut peut-être mettre en avant des choses comme pas juste la police, mais comme des conditions de vie, le fait que les jeunes soient désocialisés, qu'il n'y ait pas de travail, qu'il n'y ait pas que les quartiers soient en souffrance.
Ce que Alexandre Romanès nous disait d'ailleurs au début de cet entretien, des pauvres.
On a maintenant dans le monde de plus en plus de responsables politiques qui ciblent les gens, qui ciblent les minorités. C'est devenu une banalité. Nicolas Sarkozy l'avait fait concernant les Tziganes. Manuel Valls l'avait fait aussi. Et après, qu'est-ce que vous voulez dire à des gens qui vont nous jeter des pierres ?
Vous en voulez plus aux politiques qu'aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et en même temps, il est clair, comme Pascal Froissart le disait à l'instant, que une forme de contrôle des réseaux sociaux, quand on voit que les images du massacre en Nouvelle-Zélande sont restés 17 minutes sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'un bout de sein apparaît sur ces réseaux sociaux, il est supprimé en quelques secondes. Il y a du travail à faire. Et éduquer et en parler différemment aussi. Et peut-être aller voir du cirque et écouter la musique.
Je voudrais. On a énormément de. Ah bon.
Non, allez-y, Alexandre Manès. Allez-y.
On a énormément de mal à avoir des emplacements dans les villes. Mais je tiens à remercier Anne Hidalgo qui ne nous a jamais fait aucun problème quand on veut venir à Paris. Et même, elle nous donne un petit coup de main quand elle peut le faire. Voilà. Et une dernière chose que je voudrais vous dire, quelle tristesse de remplacer la langue française par la langue anglo-américaine. Pourquoi le fake news ? Fausse nouvelle, c'est...
Allons-y, disons des fausses nouvelles.
Fausse nouvelle, c'est gênant de dire fausse nouvelle ? Voilà. Moi, jamais je ferai ça.
Merci de votre message. Et puis, on pourrait dire, finalement, à nos auditeurs de relire Les Bijoux de la Castafiore. Formidable album de Tintin et de Hergé.
Et mes poèmes.
Et vos poèmes aussi. On se souvient, dans Les Bijoux de la Castafiore, il y a un camp de tziganes qui est là. Et tout le monde pense que c'est eux, évidemment, qui ont volé les bijoux. Et puis, Tintin découvre la danse des tziganes. Et à la fin, on découvre que c'est une pie qui a volé les bijoux de la Castafiore. Merci, Alexandre Manès.
Merci de m'avoir invité.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec François Kloss sur Europe 1.
Bonjour Alexandre Manès.
Bonjour.
Nous écoutons la formidable bande-annonce du film de Tony Gatliffe, Gadjo Dilo. Vous êtes ce matin dans notre studio pour prendre la parole, parce qu'il y a des choses à dire dans le contexte, dans cette rumeur qui s'est diffusée via Facebook, et dans ces réactions de psychose qu'elle a générées aussi. Vous avez créé votre cirque avec votre famille depuis 1994 à Paris, un petit havre de culture rome dans Paris, qui était d'abord place de Clichy, qu'on peut voir aujourd'hui pour votre nouveau spectacle dans le 16e, enfin le 16e plutôt côté
périphérique.
Du côté de la Porte Maillot, avec votre famille. Et vous êtes, Alexandre Manès, j'imagine, révolté par cette situation et la résurgence de cette figure du tzigane voleur d'enfants.
Oui, c'est une vieille affaire où on nous accuse en fait de tellement de choses. Moi, j'ai vu les images et ce que j'ai vu surtout, c'était deux pauvretés qui s'affrontent, c'est-à-dire des gens qui lancent des pierres mais qui sont intellectuellement très pauvres et des gens qui reçoivent les pierres et les incendies et qui sont, eux, économiquement très pauvres. Donc, et il y a un vieux proverbe français, quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Je voudrais préciser une toute petite chose. Vous avez dit les Roms, manouches, bohémiens, gitans, romanichel, Roms, toutes ces appellations sont fausses. Et tout ça, ce sont nos soi-disant spécialistes qui ont mis les journalistes et le monde politique dans l'erreur. Quand nous sommes entrés en Europe, on s'appelait les tziganes. Et moi, je conteste d'autres appellations.
Et c'est cette culture tzigane que vous voulez partager, véhiculer dans Paris, dans votre cirque familial de la musique, de la danse, car c'est quelque chose... j'allais dire, de culturel et de quasiment génétique.
Oui, alors, cette affaire de racisme auquel on assiste, nous la subissons, nous, maintenant, au Cirque Romanès. J'essaie depuis plusieurs mois d'établir une tournée à travers la France. Je n'y arrive pas. Même la ville de Bordeaux, qui nous accueillait presque tous les ans, ne veut plus nous accueillir, alors que mon chapiteau fait 300 places, mesure 20 mètres, on n'a pas d'animaux. On a un public, on n'a pas même tout à fait le public du cirque. On a les gens qui vont écouter de la musique classique, qui vont au théâtre. Je n'arrive pas, je lance d'ailleurs un appel.
Et vous pensez que cette difficulté, elle est liée aussi à cette peur diffuse qui, aujourd'hui, devient de moins en moins diffuse ?
En ce qui nous concerne, nous, la grosse différence avec les autres cirques, qui eux vont dans toutes les villes, il y a le mot de tzigane en grand. Et c'est le mot de tzigane qui nous bloque. D'ailleurs, si des maires de grandes villes nous entendent, s'ils pouvaient m'appeler pour me dire « venez dans ma ville », je viens. Mais là, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune ville devant nous.
Nous sommes avec Pascal Froissart. Bonjour, monsieur Froissart.
Bonjour.
Vous êtes l'un des sociologues les plus pertinents sur cette question de la rumeur. Alors, on a tous relu notre Edgar Morin 1969 sur cette fameuse rumeur d'Orléans. On a le sentiment, alors vous allez me dire si c'est juste ou pas, Pascal Froissart, qu'à l'heure, évidemment, des réseaux sociaux, de l'accélération du temps et de l'information, il y a une modification dans la diffusion de cette rumeur. Est-ce que c'est quelque chose de réel que vous observez, vous ?
Il y a une modification au sens où ça va plus vite et ça va plus loin. Il n'y a pas de véritable modification parce que ça a toujours existé et qu'on a toujours cherché des boucs émissaires partout où ils sont. Donc la technologie n'explique pas en tout cas le surgissement de ce genre de phénomène-là. C'est malheureusement quelque chose d'assez profondément inscrit dans la nature humaine.
Alors profondément inscrit, mais qui repose sur... D'abord, une détresse, un manque d'éducation, un manque d'information, le besoin d'avoir une figure sur laquelle exercer ou exorciser sa peur.
C'est compliqué, il ne faut pas faire de la psychologie de trop bas étages, c'est-à-dire il ne faut pas chercher toujours une cause et un effet très proche. Il est sûr qu'il y a des conditions, mais par exemple dans le cas qui nous intéresse, là, malheureusement on n'a pas besoin d'une rumeur pour qu'il y ait des expéditions punitives contre telle bande de tel quartier, tel village, tel
Mais ce qui est insidieux, Pascal Froissart, c'est que lorsqu'il y a ces événements, c'est aussi une psychose qui se diffuse de l'autre côté.
Alors, la psychose, elle existe parce que tout le monde s'intéresse tout d'un coup au même moment au sujet. Et là, effectivement, les technologies peuvent y jouer, mais les technologies médiatiques, en particulier le fait que tout le monde en ce moment parle de cette expédition punitive, qui n'est arrivée quand même que très rarement, il y en a très peu qui se sont passés cette semaine, mais le fait que tout le monde se concentre sur cet événement-là fait qu'on a l'impression que ça se passe dans toute la France et que toute la France est à feu et à sang et que toutes les communautés roms sont attaquées. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, les communautés roms, malheureusement, elles sont attaquées, même quand la rumeur ne circule pas. Elles sont victimes de très nombreux stéréotypes et de très nombreux exactions, même. On leur reproche physiquement d'exister parfois, et c'est un vrai problème. Donc là, la rumeur, elle a bon dos. Elle sert de prétexte dans bien des cas. Alors, ça ne veut pas dire que la technologie n'a pas son rôle à jouer et que les plateformes ne devraient pas être un tout petit peu plus vigilantes sur ce qui circule dans leur tuyau, mais ça veut dire que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de nature humaine, il faut faire très attention, il faut peut-être mettre en avant des choses comme pas juste la police, mais comme des conditions de vie, le fait que les jeunes soient désocialisés, qu'il n'y ait pas de travail, que les quartiers soient en souffrance.
Ce que Alexandre Romanès nous disait d'ailleurs au début de cet entretien, des pauvres et des pauvres.
On a maintenant dans le monde de plus en plus de responsables politiques qui ciblent les gens, qui ciblent les minorités. C'est devenu une banalité. Nicolas Sarkozy l'avait fait concernant les Tziganes. Manuel Valls l'avait fait aussi. Et après, qu'est-ce que vous voulez dire à des gens qui vont nous jeter des pierres ?
Vous en voulez plus aux politiques qu'aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et en même temps, il est clair, comme Pascal Froissart le disait à l'instant, que une forme de contrôle des réseaux sociaux, quand on voit que les images du massacre en Nouvelle-Zélande sont restées 17 minutes sur les réseaux sociaux, et lorsqu'un bout de sein apparaît sur ces réseaux sociaux, il est supprimé en quelques secondes. Il y a du travail à faire, et éduquer, et en parler différemment aussi, et peut-être aller voir du cirque et écouter la musique.
Je tiens à remercier Anne Hidalgo, qui ne nous a jamais fait aucun problème quand on veut venir à Paris, et même elle nous donne un petit coup de main quand elle peut le faire. Voilà. Et une dernière chose que je voudrais vous dire, quelle tristesse de remplacer la langue française par la langue anglo-américaine. Pourquoi le fake news ? Fausse nouvelle, c'est...
Allons-y, disons des fausses nouvelles.
Fausse nouvelle, c'est gênant de dire fausse nouvelle ? Moi, jamais je ferais ça.
Merci de votre message. Et puis on pourrait dire finalement à nos auditeurs de relire Les Bijoux de la Castafiore. Formidable album de Tintin et de Hergé.
Et mes poèmes.
Et vos poèmes aussi. On se souvient dans Les Bijoux de la Castafiore, il y a un camp de tziganes qui est là et tout le monde pense que c'est eux, évidemment, qui ont volé les bijoux. Et puis Tintin découvre la danse des tziganes et à la fin, on découvre que c'est une pie qui a volé les bijoux de la Castafiore. Merci Alexandre Romanès.
Merci de m'avoir invité.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine, continue jusqu'à 10h avec vous, François Kloss.
Et on va surtout aller au musée, parce qu'on a beaucoup parlé de Toutankhamon, on parle beaucoup ce week-end des 60 ans du petit Nicolas, deux sujets d'ailleurs formidables, mais il y a une exposition extraordinaire qui s'est ouverte cette semaine du côté d'Orsay. Je suis heureux d'accueillir Solveig, alors prononcez votre nom une première fois que je ne l'écorche pas.
Isolde Pludermacher.
Isolde Pludermacher, vous êtes l'une des commissaires de cette belle exposition qui s'intitule « Vous réhabilitez le modèle noir dans la peinture ». Le modèle noir, c'est une figure qui est apparue en même temps que l'histoire. On va de l'abolition de l'esclavage jusque à la revendication et à l'anticolonialisme. Et on va donc de 1800 jusqu'en début du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à travailler sur cette question assez taboue en France ?
Alors, pour être très précise, le projet à l'origine est un projet américain dû à l'une des commissaires de l'exposition, Denise Merel, qui, au cours de ses études d'histoire de l'art, en travaillant sur le très célèbre tableau de Manet, Olympia, s'est rendu compte que s'il y avait une littérature très abondante sur le tableau et sur l'un de ses modèles, à savoir la courtisane blanche, il y avait quasiment un silence total concernant l'un des deux autres personnages, à savoir la servante noire. Et donc, elle a voulu faire une thèse sur ce sujet et monter un projet d'exposition, exposition qui s'est tenue à New York récemment et que nous avons choisi au musée d'Orsay de reprendre en l'adaptant au contexte français.
Alors ce contexte français, c'est celui du colonialisme triomphant, et on voit avec vous comment dans l'art, petit à petit, le regard et la manière de percevoir l'autre, l'étranger, on n'est pas si loin du sujet qu'on évoquait tout à l'heure avec les Roms, va se modifier, et on le voit dans la manière dont les peintres le traitent. Ça commence par Géricault notamment, et ce fameux radeau de la Méduse où apparaît la figure d'un noir.
Effectivement, le propos de notre exposition est vraiment centré autour de la question des modèles, c'est-à-dire des individus incarnés et non pas de type générique. Donc le titre que nous avons choisi, les modèles noirs, le modèle noir plus précisément, renvoie à la fois aux modèles d'artistes, aux personnes qui ont posé pour des artistes et aux personnalités noires également du monde du spectacle ou des milieux littéraires. Mais il faut entendre aussi ce terme de modèle comme figure exemplaire d'effectivement qui traduisent cette présence importante de Parisiens noirs dès le 19e siècle.
Et ça va affecter en fait toutes les disciplines artistiques. On pense bien sûr à Baudelaire, la photographie, Nadar, qui est très présent. Et l'art va jouer un rôle capital pour faire évoluer les mentalités.
Tout à fait. Il faut bien se dire que dès le 19e siècle, il n'existe pas, par exemple, dans les archives de recensement sur des critères ethniques ou raciaux. Et finalement, ce sont les œuvres d'art qui sont les seuls moyens d'avoir accès à la visibilité de ces personnes noires présentes à Paris dès le 19e siècle. Et leur représentation par les artistes donne un aspect très incarné, très humain. Nous avons fait beaucoup de recherches autour de ces modèles dans les archives. On présente beaucoup de documents dans l'exposition en rapport avec les œuvres qui nous permettent de retracer des parcours très
alors,
précis.
Vous savez quoi, Isolde Pludermacher, on a retrouvé un modèle, ou plutôt ses descendants, et assez surprenant, il n'est pas inconnu, si je peux le dire, Pascal Légitimus, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour.
Nous allons parler de votre grand-mère. Votre grand-mère, Darling Légitimus, était au cœur de cette histoire des Noirs de Paris des années 20. Racontez-nous.
Tout à fait. En fait, elle vient de Martinique, et puis donc à l'âge de 14-15 ans, elle décide, ambitieuse, un peu comme Rastignac, d'aller à Paris. Donc elle prend le pèlerin de la Touche, qui était un bateau, elle débarque à Paris toute seule, elle connaissait un vague oncle, et puis à force de faire des auditions, elle débarque aux Folies Bergères, entre autres, au Théâtre des Champs-Élysées, et où il y avait la Revue Nègre. Et donc, elle se fait engager, comme ça, par culot, et puis elle rencontre Joséphine Baker. Elles deviennent amies, et c'est donc Joséphine Baker qui a donné le surnom de ma grand-mère, qui s'appelait Marie Paruta, Darlin. Elle a dit, tu mets un G, ça fera Darling à l'américaine.
Ce qui est fascinant dans cette histoire que vous racontez dans ce beau film qu'on va voir dans le cadre de l'exposition d'Orsay durant le mois de mai, ce film intitulé « Darling Légitimus, notre grand-mère », c'est qu'elle est au cœur de cette histoire très singulière des Noirs à Paris dans ces folles années de l'entre-deux-guerres. C'est un petit monde qui naît et qui fascine l'ensemble du pouvoir blanc, si on peut dire, de
oui,
cette époque.
Oui, c'est vrai que les Allemands, pour eux, Paris, c'était la capitale de la joie. Voilà, ils aimaient s'encanailler à Paris. Donc, et les Antillais et les Africains étaient vraiment au premier plan pour faire la fête. Donc, elle était un peu voilà, au devant de la scène artistique. Elle chantait, elle dansait, donc elle faisait tous les bals, notamment le bal nègre, rue Blomet, et puis beaucoup de baloches dans la mairie du 15e. Et donc ma famille était très importante parce qu'il coagulait les énergies des Antillais, qui venaient donc des îles, et puis qui étaient un peu perdus dans Paris. Et ma grand-mère était un peu le ciment de tout ça. Ensuite, elle est devenue actrice, évidemment, parce que bon, c'était son métier.
Et première actrice noire en France, peut-on dire ?
Quasiment, quasiment. Et ensuite, elle a eu un prix à Venise pour
le Casse-Nègre. Elle va tourner, il faut dire, elle a une filmographie, elle tourne quand même avec Guitry, avec Clouzot, et elle sera couronnement de la carrière dans Rue Casse-Nègre. Elle est meilleure actrice à la Mostra de Venise.
Tout à fait, voilà. Donc une très belle carrière. Mais ce qui était amusant, c'est que ma grand-mère, ce n'était pas la grand-mère classique. C'était un peu, elle n'était pas au coin du feu, vous voyez, à faire des pot-au-feu, à tricoter des pulls. Non, c'était vraiment une vraie diva. Et moi, évidemment, dans ce documentaire de 52 minutes, je retrace toute sa vie, son parcours, et on apprend beaucoup de choses.
J'imagine que quand vous montez sur scène, Pascal Légitimus, il y a une pensée pour Darling.
Oh ben certainement, pour ceux qui l'ont connue, en tout cas de cette époque-là. Moi, je suis un peu le chromosome artistique, vous voyez, un peu pérenne sur cette période-là. Mais c'est vrai que moi, je vais se mettre là par hasard. Parce que je n'étais pas destiné à ça, mais c'est l'humour qui m'a forgé et ma grand-mère a été un vrai modèle d'humilité en tout cas.
Si je parlais des planches, c'est que Pascal Légitimus, vous avez une actualité également très présente. On n'est pas si loin finalement des combats sociaux des années 20. Vous êtes au Théâtre des Bouffes de Paris,
oui, hein,
Bouffe parisienne, jusqu'au 28 avril prochain et ça s'appelle Non à l'argent.
Ah ben oui, Non à l'argent. Donc mon personnage, Richard, a le ticket gagnant du loto, 162 millions d'euros et il les refuse. Pourquoi ? Venez voir la pièce.
Ça, c'est de la vente et on va avoir surtout également Darling Légitimus, notre grand-mère, notre doudou, qui témoigne de ce qu'a été cette époque si particulière à Paris et que le musée d'Orsay rend très bien dans son exposition. Merci beaucoup Pascal Légitimus
de venir
témoigner sur Europe 1.
À bientôt peut-être avant.
Isolde Poudermacher, on aurait aimé parler encore vous de ce parcours de Matisse et le jazz, notamment là, frappant de voir comment le jazz a tout d'un coup changé la peinture de Matisse. Merci de nous proposer ce parcours jusqu'au mois de...
Jusqu'au 21 juillet au musée d'Orsay et l'exposition connaîtra une troisième étape au Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre.